Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Deux visages à la une ce matin, l'un est ombrageux, l'autre souriant. Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot, les nouveaux ministres de la Justice et de la Culture, les deux surprises du chef. Le premier fait déjà grincer les magistrats, la seconde donne de l'espoir à un secteur sinistré, on va l'entendre. Et parmi ceux qui restent, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Jean-Michel Blanquer montent en puissance. Pas mal de sortants à gauche, c'est l'ancienne verte Barbara Pompili qui récupère l'écologie dans un nouveau gouvernement qui penche davantage à droite, nous dira Cyril Graziani. On verra comment l'analyse votre invité dans 20 minutes, Hélène.
Oui, Gérard Larcher, le président LR du Sénat, dans le grand entretien de la matinale. Appelez-nous, chers auditeurs, dès maintenant vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Et dans ce journal, les résultats du bac ce matin, mais pas de lauréats qui se tombent dans les bras tout de suite. Geste barrière oblige dans les lycées. La fin de l'espoir d'une immunité croisée contre le Covid. C'est une porte qui se ferme et dessine comme Hockney, fin du concours France Inter, le Châtelet Pompidou.
France Inter.
Un charisme intimidant, un air bougon et des coups de gueule. En choisissant Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice, Emmanuel Macron et Jean Castex n'ont pas fait dans le consensus. Les magistrats de l'USM qu'on a entendu tout à l'heure ont immédiatement dénoncé une déclaration de guerre à leur profession, car l'homme est volontiers provocant, Corinne Audouin.
Éric Dupond-Moretti, c'est d'abord la défense dans la peau, avec un goût certain pour l'adversité, comme en novembre 2017, quand après avoir défendu Abdelkader Merah, il s'en explique au micro de Nicolas Demorand sur France Inter.
Abdelkader Merah, que j'ai eu l'honneur de défendre, incarne l'honneur, monsieur, incarne aujourd'hui le mal absolu. Dans notre époque, qui est marquée du sceau terrifiant des attentats islamistes radicaux.
Pourquoi l'honneur ? C'est votre boulot.
Pardonnez-moi, c'est pas qu'un boulot. C'est une idée que l'on se fait du métier d'avocat.
Il a défendu aussi bien Balkany que DSK, Cahuzac ou Georges Tron. Mais au-delà de ces dossiers, Éric Dupond-Moretti a des idées radicales sur ce qu'il faudrait faire pour réformer la justice. Il le disait la semaine dernière sur LCI.
D'abord, il faut qu'on sépare le siège du parquet. Je fais le ménage là-dedans. Deuxièmement, je fais un système de responsabilité des juges, parce que les juges ne sont pas responsables de ce qu'ils font aujourd'hui, et ce sont les seuls dans notre société à ne pas être responsables.
Attendu avec une certaine inquiétude par les magistrats, le nouveau garde des Sceaux, peut-être en signe d'apaisement, a retiré hier soir sa plainte dans l'affaire des écoutes. Il accusait le parquet national financier d'avoir employé des méthodes de barbouze.
À la portrait signée Corinne Audouin, à 59 ans, Éric Dupond-Moretti est une star des prétoires, 145 acquittements à son actif, fils d'une femme de ménage italienne et d'un ouvrier d'usine du Nord, un temps soutien de Martine Aubry, mais il n'a jamais fait de politique. Pour son ami, l'avocat pénaliste Hervé Temim, son arrivée place Vendôme est une bonne nouvelle.
C'est une consécration, la consécration d'un parcours professionnel exceptionnel. Et en plus, vous savez, pour tout avocat de notre génération, Éric et moi sommes de la même, c'est le modèle, l'exemple de réussite professionnelle, c'est Badinter. Alors maintenant, c'est évidemment que le début. Je crois qu'Éric Dupond-Moretti, vous le connaissez, c'est un garçon beaucoup plus modéré que certains peuvent l'imaginer. Et il est tout à fait évident qu'il ne va pas se mettre dans les habits du garde des Sceaux en manifestant la moindre hostilité au corps des magistrats. Certainement pas. Il est quelqu'un qui est, à mon avis, sur le fond, beaucoup moins clivant qu'on l'imagine, qui a plein de bon sens, qui a beaucoup d'humanité. Il ne faut pas réduire quelqu'un à une seule face visible de son caractère.
L'avocat pénaliste Hervé Temim.
L'autre nom qui attire la lumière, c'est celui de Roselyne Bachelot.
Et oui, elle a pris ses quartiers au ministère de la Culture dès hier soir après une passation de pouvoir avec Franck Riester et avant une première sortie à Radio France pour un spectacle. Ode au service public de l'audiovisuel d'une qualité formidable, dit-elle, et priorité à la remise en route des lieux culturels plombés par la crise du Covid. Le monde de la culture en attend beaucoup, à l'image d'Olivier Py, le patron du Festival d'Avignon.
Elle a une puissance de frappe médiatique. Donc je pense que le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, doit être une sorte de poil à gratter du gouvernement et surtout doit harceler le président de la République pour que Bercy mange pas les budgets de la culture. Parce qu'à Bercy, je suis pas certain qu'il soit passionné par l'amour et la poésie. On imagine toujours que les subventions servent uniquement aux intermittents et aux professionnels de la culture. Non, d'abord on subventionne les spectateurs, on subventionne les citoyens. Alors si Bercy a envie de rogner sur la culture, de faire des économies de bout de chandelle, en réalité, c'est l'honneur de la France qui réduit. Il faut vraiment replacer ça à cet endroit-là. Le monde entier nous regarde comme le pays de la culture et il faut que ça le reste.
Olivier, puis avec Stéphane Capron, Bachelot, Dupond-Moretti, deux stars autour de la table du Conseil des ministres cet après-midi. Christophe Castaner, Nicole Belloubet, Muriel Pénicaud, Sibeth Ndiaye n'en seront plus. Le curseur se déplace donc plutôt vers la droite. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
Les poids lourds de la précédente équipe, Cyril, prennent encore un peu plus d'épaisseur.
Et preuve en est, il s'agit de trois ministres étiquetés à droite. Bruno Le Maire a obtenu ce qu'il désirait. Le Grand Bercy, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Il a les pleins pouvoirs économiques, trois ministres délégués et notamment un nouvel entrant, Alain Griset, pour les petites et moyennes entreprises qui pendant 30 ans a été artisan taxi. Pour Jean-Michel Blanquer, tout a basculé dans la journée. Longtemps annoncé au ministère de l'Intérieur, soutenu par Emmanuel Macron, il conserve l'éducation nationale mais se voit attribuer, on appellera ça un lot de consolation, la jeunesse et les sports. Blanquer a perdu la bataille de l'Intérieur contre Gérald Darmanin, le nouvel homme fort du gouvernement, ministre de l'Intérieur. Le maire de Tourcoing, ex-ministre du Budget, devient le premier flic de France, un poste qu'il scrutait depuis des années. Proche de Nicolas Sarkozy, il incarne justement une forme de mainmise de l'ex-chef de l'État dans ce premier gouvernement Castex.
Alors, trois gros portefeuilles, Cyril, les deux surprises du chef dont on a parlé tout à l'heure, mais pas de prise de guerre politique.
Pas de socialiste, pas de LR et surtout pas de nom ronflant pour l'écologie. On est loin de l'entrée fracassante de Nicolas Hulot en 2017. Bon, sa sortie le sera aussi. Mais Barbara Pompili revient au ministère de l'écologie. Elle avait été secrétaire d'État à la biodiversité sous François Hollande. En la propulsant numéro 3 du gouvernement, Emmanuel Macron tente surtout d'unifier sa majorité, reprendre la main sur une frange contestataire à l'Assemblée dont Barbara Pompili était un fer de lance. Mais le chef de l'État irrite surtout milieux écolos et féministes. Si les deux premiers ministres de l'écologie, Hulot et François de Rugy, avaient décroché un titre de ministre d'État, les deux suivantes, Elisabeth Borne et Barbara Pompili, ne l'ont pas.
Cyril Graziani, merci. On s'intéresse aussi à une nouvelle tête ce matin. C'est la nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances qui remplace Marlène Schiappa, Elisabeth Moreno, originaire du Cap-Vert, arrivée en France à l'âge de 7 ans. Elle se définit comme une femme noire, élevée dans une cité aimant le challenge. C'est surtout Louis-Valentin Lopez, une patronne qui a fait sa carrière dans le monde de la tech.
Elisabeth Moreno, c'est une vie passée dans le monde des affaires, d'une PME dans le bâtiment créé en 1990 à de hautes responsabilités dans de grands groupes, Dell, Orange, puis directrice France de Lenovo, présidente de HP Afrique, un univers des nouvelles technologies très masculin où elle a dû s'imposer, comme elle le confiait il y a 2 ans lors de la Journée internationale des droits des femmes.
Je me souviens de la première grande entreprise à laquelle j'ai été présentée. Le directeur exécutif me fait faire le tour des bureaux et les gens m'accueillent avec un grand sourire en me disant « Tiens, vous êtes la nouvelle secrétaire de notre président. Non, je suis votre nouvelle patronne. »
Et elle encourage en ce sens la libération de la parole des femmes au sein des entreprises.
C'est toujours un peu désolant de voir des jeunes femmes prévoir leur maternité en fonction de leur environnement professionnel parce qu'elles ont peur d'être oubliées si elles devaient partir trop longtemps. C'est toujours un peu ennuyeux de sentir des femmes pas à l'aise pour pouvoir s'exprimer au sein de leur cadre professionnel.
Mais à peine nommé, certains de ces propos ont déjà été épinglés. Dans un entretien en 2018 aux Échos, Elisabeth Moreno conseillait ainsi aux femmes de monter dans la hiérarchie, estimant que plus elles avaient de responsabilités, moins elles étaient victimes de sexisme, ce qui a fait réagir des militantes féministes sur les réseaux sociaux.
Voilà pour cette nouvelle ministre qui remplace Marlène Schiappa, nommée à la citoyenneté. Voilà donc pour les grandes lignes de ce remaniement pour ces deux dernières années du quinquennat. La suite maintenant, c'est la feuille de route et l'explication de texte que délivrera Emmanuel Macron lors d'une interview le 14 juillet, puis le discours de politique générale de Jean Castex. En attendant, le Premier ministre recevra les syndicats et le patronat à partir de ce soir. L'exécutif veut reprendre les négociations sur les retraites dès cet été. Aux confins de la politique et de la justice, cette nouvelle enquête après les municipales à Marseille sur des procurations douteuses dans le secteur remportées par la sénatrice Samia Ghali, cette fois, alors que des soupçons de fraude pèsent aussi sur la droite depuis le premier tour.
Mardi 7 juillet, jour de liesse, hein, d'habitude dans les lycées.
Mais oui, pour les résultats du bac, évidemment, sauf que cette année, rien n'est normal, pas d'épreuve finale et contrôle continu. L'annonce des résultats sera elle aussi particulière, Sonia Princet.
Pas d'affichage, puis affichage si les conditions sanitaires le permettent. Les lycées ont reçu ordre et contre-ordre jusqu'à la semaine dernière. Freddy Leroux est proviseur du lycée Charlotte Delbault en Seine-et-Marne. Cet établissement de petite taille est un peu l'exception qui confirme la règle.
À partir de 10h, donc, on va afficher les résultats. Chaque élève va rentrer au fur et à mesure avec le protocole sanitaire actuel, hein, ça veut dire avec le masque, en respectant bien sûr la distanciation avec les personnes devant et derrière. Et nous allons les accueillir sur plusieurs tables classées par ordre alphabétique. Hein, des choses qui permettent quand même à nos élèves de terminale eh bien quand même d'avoir ce moment de réjouissance, une petite dose de réconfort sur cette fin d'année scolaire.
Mais ce n'est pas la situation normale dans la grande majorité des lycées, comme celui de Lysiane Gervais, proviseur à Saint-André-de-Cubzac en Gironde.
On a décidé effectivement de ne pas afficher les résultats comme on le faisait habituellement, parce que ce qui dit affichage dit attroupement d'élèves et effectivement ça peut représenter un danger.
Ce lycée, comme beaucoup d'autres, a donc donné les codes aux élèves pour qu'ils regardent leurs résultats sur Internet et ils sont convoqués par petits groupes tout au long de la journée pour récupérer leur relevé de notes.
Voilà, année perturbée jusqu'au bout pour les terminales. Aujourd'hui, ce sont les lycéens chinois qui passent le bac. Attention, toute quinte de tout vaudra expulsion de la salle d'examen dans laquelle ne rentreront que ceux qui auront moins de 37,3 de température.
Une hypothèse de plus qui tombe dans la recherche sur le Covid.
L'immunité croisée dont on parlait ces dernières semaines, soit la possibilité que nous soyons protégés par nos précédents rhumes qui sont parfois des coronavirus, ce qui aurait expliqué pourquoi les enfants, souvent enrhumés, sont moins infectés que les adultes. Hélas, ça n'est pas le cas. Véronique Julia, une étude coordonnée par l'hôpital Necker et l'Institut Pasteur indique que cette immunité n'existe pas.
L'étude a porté sur près de 800 enfants, de 0 à 18 ans, tous hospitalisés ou ayant consulté dans des hôpitaux d'Île-de-France entre mars et juin dernier. 36 de ces enfants avaient la forme grave de Covid, proche du syndrome de Kawasaki. Les autres étaient à l'hôpital pour des motifs divers. Certains étaient positifs au SARS-CoV-2, d'autres non. On a donc constitué deux groupes, un groupe d'enfants positifs, parmi lesquels des Kawasaki, et un groupe d'enfants négatifs dans chacun des groupes. On a constaté que 80 à 90% des enfants étaient porteurs d'anticorps, prouvant qu'ils avaient déjà croisé par le passé des coronavirus de la même famille que le SARS-CoV-2. Moralité, les enfants sont nombreux à porter ces anticorps et ces anticorps n'empêchent ni une infection Covid ultérieure, ni même sa forme grave, heureusement assez rare. La bonne nouvelle, c'est que le fait de porter ces anticorps n'aggrave pas non plus les choses et n'augmente pas le risque de faire un Kawasaki, ce qui était aussi une hypothèse envisagée. Ce que laisse également supposer cette étude, c'est que si l'infection antérieure à des coronavirus ne protège pas du Covid, on peut supposer qu'une infection Covid ne protégera pas forcément non plus très longtemps d'une réinfection, ce qui rendra difficile l'éradication de la maladie.
Voilà, à l'étranger, les 5 millions d'habitants de Melbourne, la deuxième ville d'Australie, sont désormais confinés, annonce à l'instant des autorités australiennes à cause de la flambée des cas de coronavirus. Et puis, Jair Bolsonaro, qui ne s'en est jamais protégé publiquement, a-t-il attrapé le Covid-19? Le président brésilien en présente les symptômes, il s'est fait tester. Résultat dans la journée. Un rapport comme des banderilles maintenant. Rapport de l'ONU sur la pauvreté en Espagne après une enquête menée en début d'année. Mathieu de Taillac, ses conclusions sont implacables et dévastatrices pour le pouvoir politique.
Les situations de grande pauvreté sont très étendues. Le taux de chômage est élevé et celui des jeunes chronique. La crise du logement a des proportions énormes. Les programmes de protection sociale sont insuffisants. Le système éducatif est anachronique. Les politiques fiscales et de redistribution favorisent davantage les classes aisées que les plus pauvres. Une mentalité bureaucratique permet aux autorités d'éluder leurs responsabilités. Autant d'accusations qui figurent noir sur blanc dans les conclusions de Philippe Alston, le rapporteur spécial de l'ONU pour la pauvreté et les droits humains, après son séjour en Espagne. Alston a vu les conditions de vie des travailleurs immigrés dans l'agriculture qu'il juge plus dures que celles des réfugiés dans les camps. Il a rencontré les personnes expulsées de chez elles après que leur HLM a été vendu à des fonds d'investissement. Maigre consolation pour le gouvernement espagnol, sa première préconisation, la mise en place d'un revenu social minimum, l'équivalent de notre RSA, a été adoptée il y a deux mois par le Parlement. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
On ne fait pas, sachez-le, que parler ou chanter à la radio. On dessine aussi, pour finir ce journal, ou plutôt on donne envie de dessiner, ce qu'a fait Augustin Trapenard en lisant une lettre de l'artiste David Hockney pendant le confinement. Début d'une idée, début d'un concours lancé par France Inter, le Théâtre du Châtelet et le Centre Pompidou. L'espoir au printemps dessine comme Hockney, connu pour ses paysages et ses personnages aux couleurs pop. Le concours est terminé. Plus de 2700 dessins ont été envoyés. Avant de nous révéler les noms des lauréats, ce que vous nous dites, Isabelle Pasquier, c'est que ce que vous avez vu vous a bluffé.
Oui, bluffé, un régal, tout simplement parce que la qualité des dessins est incroyable. Il y a une vision à chaque fois très créative de la nature, une folle énergie graphique. Il y a même des classes à Toulouse, à Caen, le CE1 du lycée français de Budapest, ou encore l'association pour adultes et jeunes handicapés de la Drôme qui ont participé. La plus jeune, imaginez, c'est Juliette Huneman, 2 ans et demi, et la doyenne, c'est la grande illustratrice Jacqueline Duhem, 93 ans, qui a travaillé auprès de Matisse.
Alors c'est un concours, Isabelle, donc il y a des lauréats. Qui sont-ils ?
25 lauréats, alors je ne citerai qu'un seul nom dans chaque catégorie. Catégorie artiste étranger, Carlos Julian de la Fuente, avec une nature qui s'envole. Catégorie jeunesse, Sarah Misbah, 13 ans, elle a peint une sublime terrasse sur jardin à la Matisse. Catégorie adulte, par exemple, Nicole Concretel, elle est styliste, elle a dessiné un arbre violet, plutôt psychédélique.
Avec le confinement, j'avais une envie de foisonnement de couleurs, de positif, d'optimisme. En fait, je travaille avec des moyens plutôt modestes que du feutre.
Parmi les lauréats, Jacqueline Duhem, donc, avec ses oiseaux masqués. Enfin, la catégorie dessine comme Hockney, Damien Pelletier. Alors, ces 25 œuvres sélectionnées seront exposées pendant 10 jours à partir du 8 septembre dans le hall du Théâtre du Châtelet en entrée libre. Et puis, dès maintenant, sur les sites et les réseaux sociaux du Châtelet, du Centre Pompidou et bien sûr de France Inter, tous les noms des lauréats sont également sur les sites des 3 institutions Inter-Châtelet-Pompidou.
Isabelle Pasquier, merci. Merci, c'est bien aussi le dessin à la radio.